Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous sommes ce matin à une semaine du tout premier match de la Coupe du Monde de football en Amérique. Vous allez voir que les Bleus jouent leur premier match amical ce soir contre la Côte d'Ivoire et que l'autorité nationale du jeu alerte sur les paris sportifs qui pourraient bien atteindre des niveaux records durant la compétition. On sera dans ce journal à Grenoble où les dealers taquent désormais des offres d'emploi sur les murs des cités et à Roland-Garros où il y aura un match Russie-Ukraine aujourd'hui en demi-finale.
On est donc à une semaine tout pile du début de la Coupe du Monde de football.
Alors ça va être le mondial des footballeurs, mais aussi le mondial des parieurs. Romain Houg pour RMC en direct ce matin. L'autorité nationale des jeux s'inquiète des sommes records qui pourraient bien être jouées pendant toute la durée de la Coupe du Monde.
Oui, une barre symbolique pourrait être franchie pour la toute première fois en France lors d'une compétition sportive avec jusqu'à 1 milliard 200 millions d'euros de mise. Alors il y a d'abord un effet mécanique dû au format XXL de ce mondial, 48 équipes en face finale, 104 matchs, c'est 40 rencontres de plus qu'il y a 4 ans au Qatar. Plus de matchs, c'est encore plus d'opportunités de parier dessus et forcément ça dépend aussi du parcours des Bleus. Plus l'équipe de France ira loin dans la compétition et plus il y aura de paris. Ce qui inquiète l'autorité des jeux, le régulateur du marché en France, c'est la perte de contrôle qui concerne plus d'un tiers des parieurs habituels. La NJ identifie 600 000 joueurs qui risquent d'être excessifs dans leur mise, d'autant qu'il y a un rajeunissement des parieurs. Chez les moins de 35 ans, ils sont plus d'un sur deux à se dire prêt à parier sur le résultat d'un match. Enfin, entre les notifications sur le téléphone, les publicités à la télévision, l'autorité craint une sursollicitation des parieurs. C'est pourquoi elle met en place dès aujourd'hui une campagne de sensibilisation pour alerter sur les risques de dérive et d'addiction aux paris sportifs.
La campagne que vous verrez forcément, que ce soit à l'écran, à la radio, qui a été tournée dans les rues de Montpellier. Alors, nos Bleus, on est parti pour les suivre à partir d'aujourd'hui, au jour le jour, pendant un mois et demi. Sachez qu'ils se réveillent ce matin à Nantes, où ils joueront donc ce soir à 21h10 leur premier match de préparation contre la Côte d'Ivoire, avec beaucoup de rotations prévues entre ceux qui sont à Clairefontaine depuis une semaine et ceux qui sont arrivés seulement avant-hier, Valentin Jamin.
Oui, car les écarts de rythme sont grands. Certains Bleus étaient sur le terrain samedi dernier, quand d'autres n'ont pas joué depuis plus de 2 semaines. Alors il ne faut pas attendre une équipe prête dès ce soir, explique le sélectionneur Didier Deschamps.
C'est une étape. Les 26 sont en de bonnes conditions. Après, il y a toujours des sujets un peu à gérer.
Les joueurs présents depuis vendredi à Clairefontaine ont fait beaucoup de travail foncier, raconte le défenseur Jules Koundé.
On a tous eu des saisons différentes. C'était important de repartir sur de bonnes bases sur le plan athlétique. Donc on a pas mal couru. On est tous excités De démarrer cette préparation.
Qui doit aussi servir à créer encore plus de liens.
C'est de continuer à travailler les automatismes entre nous, de peaufiner les derniers détails. On est un groupe qui a eu l'opportunité de passer du temps ensemble.
Et pour les 6 finalistes de la Ligue des Champions, arrivés il y a seulement 2 jours, il s'agit également de basculer, annonce Didier Deschamps.
Je leur ai dit, stop, c'est fini. Là, c'est un objectif commun, différent. L'environnement qu'ils peuvent avoir en club, c'est pas le même. C'est pour ça qu'il y a de la gestion sur le plan physique, mais aussi psychologique.
Eux ne devraient pas être titulaires, mais entrer en jeu, car Deschamps devrait faire de nombreux changements pendant le match.
Et alors, on surveillera peut-être qu'à un moment, on aura ce soir pendant le match un match entre les frères Doué, un de chaque côté, Désiré côté français, son grand frère Guéla côté ivoirien. Et ce match, comme tous ceux d'ailleurs de la Coupe du Monde, il sera à vivre sur RMC, radio officielle de ce mondial. Il y a 170 gendarmes qui sont toujours mobilisés ce matin dans le département du Gers pour tenter de retrouver Liana, cette jeune fille de 11 ans que plus personne n'a vue depuis qu'elle est montée, c'était vendredi dernier, dans la voiture d'un suspect âgé de 41 ans. Dont on découvre un petit peu plus chaque jour le lourd passé. Visé par 3 procédures pour viol ou agression sexuelle avant la disparition de Liana, et même par une quatrième depuis hier, c'est une jeune fille de 11 ans, encore une fois, qui dit avoir été agressée sexuellement lors d'une soirée pyjama au domicile du suspect en août l'année dernière. Son père témoigne à BFM TV, et Cassandre Bro, vous nous racontez pour RMC.
Nicolas se rappellera toute sa vie de cette lettre, un courrier de l'éducatrice de sa fille placée en foyer.
Il me dit qu'il s'est passé des gestes mal passés au niveau de ma fille au réveil, des caresses au niveau des fesses, des parties du corps.
Et même un viol au domicile de Jérôme B lors d'une soirée pyjama avec sa fille. Les deux enfants étaient dans la même école. Incompréhensible pour le papa qui tente, pendant une visite, de faire parler sa fille.
Elle ne savait pas que c'était pas normal. Et parler à son papa de ça... Je pense qu'elle veut pas m'en parler. Elle se renferme. Elle se croquevillée sur elle-même.
Si la petite fille pose difficilement des mots sur ce qu'elle a subi, son père reconnaît que son comportement a changé depuis.
Moi, ça me rend fou. Elle met des pantalons, ses t-shirts dans le pantalon. C'est comme ça maintenant. elle fait attention de bien se tenir. Et à chaque fois que moi je l'ai en visite, elle a une veste. Ça a brisé l'intimité de ma fille.
Nicolas, lui, ne décolère pas. Il espère que cette nouvelle plainte va permettre d'aider à retrouver la petite Liana.
Et ne manquez pas à 8h30, mon invité ce sera Dominique Rizet, le journaliste police-justice, pour faire un point complet sur l'enquête, la disparition de la petite Liana et les dysfonctionnements de la justice.
Écoutez cette nouvelle action de militantes féministes hier soir à Paris. Elles ont stoppé et même fait annuler une représentation de la pièce de théâtre de Patrick Bruel au théâtre Édouard VII dans la capitale, lui qui est accusé de violence sexuelle, hein, qu'il continue de nier par une trentaine de femmes. Tiens, ça c'est la dernière provocation des trafiquants de drogue à Grenoble, la ville où le procureur en appelait carrément au pouvoir public la semaine dernière. Eh ben, ça n'a pas l'air de déranger les dealers puisqu'ils taguent désormais des offres d'emploi sur les murs du quartier Hoche. C'est un haut lieu du trafic dans l'agglomération grenobloise où s'est rendu notre correspondant Vincent Chevalier.
Julien habite dans ce quartier depuis 3 ans et il y a quelques jours, il a remarqué ces nouveaux tags.
Pour les différentes positions qu'ils ont à remplir, les tarifs pour leurs shifts.
Ça ressemble à quoi alors les tarifs des shifts?
Il me semble de mémoire, c'était 300 € pour un shift pour un vendeur. La sécurité qui était un peu moins bien payée, je crois.
Des tarifs différents aussi selon les horaires de jour et de nuit, des offres d'emploi à ciel ouvert qui n'étonnent plus beaucoup ces riverains.
Je trouve ça assez quand même hallucinant de laisser faire de telles manœuvres, quoi.
Je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on agisse un peu plus fermement.
Après les prix de vente tagués sur les murs ou les publicités dans les boîtes aux lettres, les dealers franchissent un nouveau cap selon Alberto Randazzo.
Un cap inquiétant, pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a une structuration et une banalisation du trafic de stupéfiants. Hein.
Il est secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale en Isère.
Maintenant, il est temps que Grenoble se dote d'un véritable plan Marshall de la sécurité, tout simplement, avec un apport massif d'effectifs sur la voie publique, un apport massif d'effectifs dans les services d'investigation.
Ces 6 derniers mois, au moins 10 personnes ont été tuées dans des guerres de territoire dans la métropole de Grenoble.
Sachez que c'est la journée des demi-finales dames aujourd'hui à Roland-Garros. Tournoi qui est plus ouvert que jamais, hein, au lendemain de l'élimination de la numéro 1 mondiale. Et alors il y a cette affiche qui passe évidemment pas inaperçue à Léna Marjac pour RMC entre l'Ukrainienne Kostyuk et la Russe Andreeva dans le contexte évidemment de la guerre.
Chaque fin de match, pas de poignée de main, pas de paroles ou de regards échangés. Mais en conférence de presse, Kostyuk ne mâche pas ses mots. Elle cible ses adversaires d'origine russe.
J'aimerais qu'il y ait une position plus claire sur ce qu'il se passe, surtout quand votre pays tue d'autres personnes. Je ne sais pas comment elles peuvent dormir tranquilles. Après 4 ans, les choses sont claires. On sait de quel côté elles sont et c'est leur fardeau. C'est à eux de le porter et non à moi.
Alors que Mira Andreeva, 19 ans, ne s'attarde pas sur le conflit opposant les deux nations, ni sur le fait d'affronter une joueuse ukrainienne.
Peu importe contre qui je joue avant tout une balle. Peu importe qui est l'adversaire pour moi. J'essaie de me concentrer sur le jeu et sur le plan de jeu que je dois dérouler sur le court.
Évidemment, Marta Kostyuk, 15e mondiale, invaincue sur terre cette saison, sait faire la part des choses sur le terrain, entre le conflit d'un côté et le tennis de l'autre.
Je pense que si je n'étais pas en mesure de le faire, je n'aurais pas réussi à gagner à 2 reprises contre elle comme je l'ai fait. Il faut être en mesure de jouer au tennis, de faire son travail.
Celle qui s'imposera aujourd'hui, soit Marta Kostyuk, soit Mira Andreeva, vivra sa première finale de Grand Chelem.
Bon, et puis ça commence pas pour Victor Wembanyama. Son équipe de San Antonio a perdu le premier match de la finale NBA contre New York, 105 à 95. Cette nuit, c'était ses premières 4 victoires qui gagnent cette finale. La deuxième manche est prévue dans la nuit de samedi à dimanche.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08.